Voici une question qui est dans la pensée de plusieurs. Est-ce qu'on peut prédire la date du retour de Jésus-Christ? Le merveilleux livre de Dieu va nous donner une réponse bien instructive aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je dois vous avouer qu'avant de connaître le Seigneur et sa parole, je ne savais même pas qu'il y avait un retour de Jésus-Christ de prévu. Mais maintenant, j'y pense chaque jour. J'ai bien hâte à cet événement. Mais en attendant, je me réjouis des réponses que la Bible va nous donner aujourd'hui aux questions que voici. Quel est le prochain grand événement qui aura lieu en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut prédire la date et l'heure du retour de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui va arriver aux gens qui sont morts avant l'enlèvement de l'Église? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu utilise le terme « dormir » pour désigner la mort physique? Est-ce que notre âme peut mourir? Pourquoi est-ce que les gens ont peur de la mort? Restez avec nous, la parole de Dieu va mettre fin à bien des discussions, alors qu'elle va répondre à nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans un moment. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il ouvre notre intelligence afin qu'on comprenne bien cet enseignement précieux qu'il va nous donner. Prions. Oh oui, Seigneur, on te demande d'ouvrir notre intelligence afin que ta parole puisse pénétrer jusqu'au fond de nos cœurs, Seigneur, et qu'elle fasse effet dans nos vies, que ça paraisse qu'on est des enfants de Dieu. Touche nos cœurs et touche le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore pour qu'ils deviennent eux aussi des enfants de Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'un enfant de Dieu désire ardemment marcher dans la sainteté. Il peut faire cela uniquement avec la puissance du Saint-Esprit. Nous avons mentionné que le Saint-Esprit habite tous les véritables croyants et que nous n'avons pas besoin de le chercher après notre conversion. Cependant, nous avons parfois besoin de recevoir de nouveau sa plénitude. En effet, nous pouvons attrister l'esprit en commettant des péchés. Nous avons aussi expliqué que rejeter les commandements de Dieu, c'est rejeter Dieu. De plus, nous avons mentionné que nous devons croître dans l'amour et c'est Dieu qui nous enseigne à aimer nos frères. Finalement, Dieu nous demande de vivre tranquille sans nous agiter inutilement. Il nous demande de travailler et d'être honnête. En effet, le monde juge le Seigneur Jésus d'après notre comportement. Le prochain grand événement, l'enlèvement de l'Église. Nous abordons maintenant une autre section de l'Écriture, un passage que certains considèrent comme étant le passage le plus important parmi ceux qui traitent de la prophétie. La section traite du prochain événement majeur de l'histoire du christianisme, soit la venue de Jésus-Christ pour enlever son Église. Le fait que ce soit le prochain événement ne signifie pas qu'il est sur le point de se produire, mais que c'est le suivant sur la liste. Il n'y aura pas d'autre événement majeur avant celui-ci. L'apôtre Paul n'a jamais dit que la venue de Jésus-Christ était imminente, c'est-à-dire sur le point de se produire. Paul ne voulait pas que les gens pensent que l'événement devait absolument se produire de leur vivant ou peu après. Nous attendons le retour de Jésus-Christ depuis 2000 ans. Lorsque nous disons que c'est le prochain événement, nous disons que c'est l'événement suivant prévu au calendrier de Dieu. Il n'y en aura pas d'autre avant celui-ci. Le pasteur, J. Vernon McGee, voyageait souvent par avion entre la Californie sur la côte ouest et la Floride sur la côte est. Un jour, peu de temps après le décollage de l'avion, le pilote a dit aux passagers: la température est merveilleuse ici dans le sud de la Californie, comme vous pouvez le constater. On nous rapporte qu'il fait beau à Miami et qu'il en sera encore ainsi lorsque nous y atterrirons. Nous volerons au-dessus du Texas. Nous ignorons quelle température il y fait, mais nous nous attendons à un vol sans incident. Notre prochain arrêt est Miami. Lorsque le pilote a dit cela, les passagers ne se sont pas empressés de prendre leurs bagages. En effet, le vol devait durer 5 heures. Le pilote n'avait pas dit que l'atterrissage à Miami se ferait dans les minutes qui suivent, mais que ce serait l'atterrissage suivant. Nous ne pouvons pas prédire la date et l'heure du retour de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une différence entre attendre l'atterrissage à Miami et attendre la venue du Seigneur Jésus. Les passagers savaient que l'atterrissage aurait lieu dans environ 5 heures. Par contre, nous ne connaissons pas la date et l'heure de la venue du Seigneur Jésus. L'événement pourrait se produire aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans un siècle ou dans quelques siècles. La venue de Jésus-Christ est l'événement suivant prévu au calendrier de Dieu, mais nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est le prochain événement, mais il n'est pas nécessairement rapproché dans le temps. L'apôtre Paul a dit clairement qu'il croyait au prochain retour de Jésus-Christ. Au verset 15 de ce chapitre, il dit « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. L'apôtre Paul croyait que le Seigneur Jésus pouvait venir de son vivant. Il n'a pas dit qu'il croyait que Jésus-Christ reviendra de son vivant. Il a simplement dit que cela était possible. C'est avec cette attitude que l'apôtre Paul a écrit à Tite, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite, chapitre 2, verset 13. Certains accusent Paul d'avoir changé d'idée au sujet de la venue de Christ alors qu'il est devenu vieux. Rappelez-vous que cette épître aux Thessaloniciens est une des premières écrites par l'apôtre Paul. Est-ce que Paul a révisé sa théologie en cours de route? Alors que Paul était avancé en âge, il a écrit aux Philippiens. Il leur a dit, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 3, verset 20. Vers la fin de sa vie, Paul attendait toujours le retour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul savait que c'était le prochain événement prévu au calendrier de Dieu. Le premier but de Paul est de répondre à une question des Thessaloniciens. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Le premier but de ce texte n'est pas d'enseigner au sujet de l'enlèvement. En fait, l'apôtre Paul répond à une question précise. Qu'en est-il de ceux qui sont morts avant l'enlèvement de l'Église? Nous devons nous rappeler le contexte de cette épître afin de comprendre combien importante était cette question pour les croyants de Thessalonique. L'apôtre Paul s'est arrêté dans cette ville lors de son deuxième voyage missionnaire. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures. Citation de Actes, chapitre 17, verset 2. Pendant le peu de temps qu'il a été à Thessalonique, l'apôtre Paul a accompli une tâche herculéenne. Il a prêché l'Évangile et des personnes ont été sauvées. Ensuite, Paul a établi une église. De plus, il a enseigné les fondements de la foi chrétienne à ses jeunes croyants. Et il est intéressant de noter qu'il a enseigné au sujet de l'enlèvement de l'Église. Paul a enseigné aux Thessaloniciens que le Seigneur Jésus pouvait venir chercher son Église à n'importe quel moment. Paul a quitté Thessalonique pour s'installer à Bérée. Il passa quelque temps dans la ville et il y fonda une église. Ensuite, il a poursuivi son chemin jusqu'à Athènes. Nous ne savons pas combien de temps il a passé dans cette ville. Là, il a attendu que Timothée et Silas lui apportent des nouvelles de Thessalonique. Les deux hommes n'arrivaient pas, alors Paul s'est rendu à Corinthe. Finalement, Timothée et Silas l'ont rejoint dans cette ville. Ils ont rapporté une liste de questions que les chrétiens de Thessalonique voulaient poser à Paul. C'est ce qui a motivé Paul à rédiger la première épître aux Thessaloniciens. Il a écrit pour les encourager et répondre à leurs questions au sujet de l'enlèvement de l'Église. Depuis que Paul avait quitté Thessalonique, des chrétiens de la ville ont décédé. Les croyants se demandaient donc si les chrétiens décédés avaient raté l'enlèvement de l'Église. Paul a dû leur enseigner au sujet de la venue de Jésus pour enlever son Église. Sinon, il n'aurait pas posé une telle question. L'apôtre Paul leur avait enseigné que le Seigneur Jésus pouvait revenir n'importe quand. Est-ce que les chrétiens qui sont morts avant le retour de Jésus-Christ ont raté l'enlèvement de l'Église? Que deviendront ces croyants? L'apôtre Paul répond à cette question dans cet épître. Pour nous, depuis près de 2000 ans plus tard, la question des Thessaloniciens n'a pas tout à fait le même sens. Des millions de chrétiens sont morts depuis la rédaction de cet épître. La plupart de l'Église se retrouve dans l'au-delà, et seule une petite minorité demeure sur la terre. L'apôtre Paul a enseigné que le retour du Seigneur Jésus était le prochain événement majeur au calendrier de Dieu, et nous le croyons toujours aujourd'hui. Il reste probablement peu de temps avant le retour de Jésus-Christ. En fait, Jésus pourrait revenir à tout moment, même avant la fin de cette émission, où il pourrait s'écouler un certain temps avant qu'il revienne, et ce temps pourrait même être de quelques siècles. Ne faisons pas l'erreur d'essayer de prédire la date du retour du Seigneur. Beaucoup de gens tombent dans un piège. Ils essaient de prédire ou de calculer la date du retour de Jésus-Christ. C'est imprudent, car personne ne sait quand le Seigneur reviendra. Nous n'en savons ni le jour, ni l'heure. Il a dit qu'il reviendrait comme un voleur. En fait, jusqu'ici, toutes les prédictions au sujet de la date du retour du Seigneur se sont avérées fausses. Alors que nous étudierons le reste de ce chapitre, n'oublions pas que l'apôtre Paul répond à une question des Thessaloniciens au sujet des chrétiens morts avant le retour du Seigneur Jésus. Revenons au texte, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. J'aime la façon dont l'apôtre Paul dit cela. Il emploie une expression semblable dans les épîtres aux Corinthiens. Sa première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 1, lorsqu'il parle ainsi, il dit aux frères qu'ils sont ignorants. Cependant, il ne le dit pas rudement, mais d'une façon plus polie et plus diplomate. L'apôtre Paul parle avec une attitude chrétienne. Pourquoi utilise-t-on le terme « dormir » pour désigner la mort physique? Plusieurs traductions de la Bible emploient le mot « dormir » plutôt que le mot « décédé ». La traduction « la colombe » est un exemple. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, version « la colombe ». Le terme grec peut signifier « dormir » ou « mourir ». Certaines personnes se fondent sur ce verset pour affirmer que les âmes meurent. Cependant, en étudiant le reste de cette section, nous verrons que l'âme ou l'esprit est immortel. Cependant, on emploie le mot « dormir » au lieu de « mourir » en parlant de la mort physique. Examinons les raisons pour lesquelles cela se fait. Premièrement, il y a une certaine ressemblance entre la mort et dormir. Un corps qui dort et un corps mort sont semblables. À l'occasion de funérailles, vous avez sûrement entendu dire qu'un tel semblait dormir. C'est vrai dans un sens. Une personne qui dort ne cesse pas d'exister. Et ce n'est pas parce que le corps est mort qu'une personne cesse d'exister. Le sommeil est temporaire et la mort l'est aussi. Tout comme certaines personnes sont somnambules, c'est-à-dire qu'elles marchent dans leur sommeil, de même les morts ressuscitent. La vie n'est pas le contraire de la mort, dans le sens que la vie est l'existence et la mort la non-existence. Le mot grec « kouamao », qui est traduit par « mourir » ou par « dormir », a pour racine le mot grec « kenai », qui signifie « se coucher ou s'étendre ». De plus, notez que le mot « résurrection » ne s'applique qu'au corps. Le mot grec pour « résurrection » est « anastasis » et il vient du mot « anesthémie ». Le mot grec « ischthémie » signifie « se tenir debout ». Seul le corps peut se tenir debout au moment de la résurrection. C.S. Lewis, dans un livre intitulé « Tactique du diable », se sert de sarcasme pour ridiculiser les théologiens libéraux qui croient que la résurrection est une résurrection de l'esprit et non du corps. Il demande « Quelle position est-ce que l'âme prend lorsqu'elle se couche pour dormir ?» ou « Quelle position l'esprit prend lorsqu'il se lève à sa résurrection ?» De toute évidence, c'est le corps qui dort et non l'âme. Le mot grec utilisé pour endormi ou décédé dans le verset est aussi utilisé pour parler du sommeil naturel. Dans Luc chapitre 22 verset 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Voyez-vous cela, Jésus et ses disciples étaient au jardin de Gethsémané, peu de temps avant son arrestation et sa crucifixion. Pierre, Jean et Jacques s'étaient endormis à ce moment-là. Luc 22, verset 45 et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, utilisent tous deux le même mot grec, soit « kouamao ». Dans un verset, il est traduit « décédé » et dans l'autre « endormi ». L'un réfère à la mort, l'autre au sommeil naturel. Le mot « kouamao » est aussi utilisé dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Quoi qu'il en soit, nous savons que l'apôtre Pierre ne souffrait pas d'insomnie. Il pouvait dormir pendant n'importe quelle crise. Troisièmement, la Bible enseigne que le corps qui a été créé avec de la poussière redevient poussière, mais que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésias, chapitre 12, verset 9. Le corps a été tiré de la poussière. Dieu a dit à Adam, « Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Genèse, chapitre 3, verset 19. Dieu a soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme et il est devenu une âme vivante. L'esprit a été donné par Dieu. Le corps dort jusqu'à la résurrection et seulement le corps. L'esprit ou l'âme d'un croyant retourne à Dieu. L'âme ou l'esprit ne meurt pas. L'âme ou l'esprit ne ressuscite donc pas. Seul le corps peut s'étendre à sa mort. Et seul le corps peut se lever à la résurrection. Cela est particulièrement évident lorsque Paul dit qu'être absent du corps est être présent avec le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8. Le corps est une tente que nous mettons temporairement de côté au moment de notre mort. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Vous vivez peut-être dans une maison qui vous a coûté 500 000 $. Mais en fait, vous vivez vraiment dans une petite tente. Dieu nous a tous placés dans une petite tente. Dieu nous a tous donné le même genre de tente. Il n'a pas donné un taudis à l'un et un manoir à l'autre. Si vous décomposiez votre corps en ses éléments et ses composés, les produits chimiques recueillis ne vaudraient que quelques dollars. Votre tente peut être détruite n'importe quand. Un accident, et c'est vite arrivé. Nos corps sont des tentes très fragiles. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Citation de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Lorsque le président Adam était âgé, un ami s'est renseigné au sujet de sa santé. Il a répondu qu'il allait bien, mais que la maison, son corps, dans laquelle il habitait, devenait rachitique et qu'elle avait besoin de réparations majeures. C'est dans ce genre de corps que nous vivons, mes amis. Nos vieux corps seront ensevelis ou incinérés, mais notre âme sera auprès du Seigneur. L'apôtre Paul a écrit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 6 et 7. Présentement, nous habitons ce corps, c'est là que nous vivons. Les gens ne nous voient pas vraiment, car nous sommes cachés dans notre corps. Paul ajoute, « Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. C'est un verset merveilleux. « Si jamais vous assistez à mes funérailles, je ne veux pas que vous veniez près du cercueil et que vous dites, « Il a l'air naturel. » Mes amis, je ne serai même pas là. Vous contemplerez la tente que j'aurai laissée derrière moi en partant. Vous ne verrez que ma vieille habitation qui dormira. Mon âme sera auprès du Seigneur. Nos corps ressusciteront à la résurrection. Il est semé corps naturel, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44. Certaines écoles de théologie enseignent que la Bible parle d'une résurrection spirituelle et elle rejette la résurrection corporelle. Certains théologiens s'appuient sur ce verset pour justifier et défendre leur position. Cependant, notez que naturel et spirituel sont des adjectifs qui décrivent le nom « corps ». En analysant et en interprétant ce verset, c'est sur le mot « corps » qu'il faut mettre l'accent et non sur les adjectifs qu'ils décrivent. Lorsque notre corps ressuscite, il est toujours un corps, mais cette fois, il est dominé par l'élément spirituel. Cependant, le corps ressuscité est toujours un corps. Daniel aussi a employé le mot « sommeil » pour décrire la mort physique. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Citation de Daniel, chapitre 12, verset 2. « La poussière, c'est-à-dire le corps, retournera à la poussière, et l'esprit ou l'âme retournera auprès de Dieu qui l'a donné. » Quatrièmement, les premiers chrétiens ont adopté un beau mot grec pour désigner les endroits où ils enterraient les corps de leurs êtres chers. C'est le mot « quamétérion ». Nous avons tiré le mot « cimetière » de ce mot grec. À l'époque de l'Église naissante, le mot « quamétérion » décrivait une auberge pour voyageurs. Aujourd'hui, nous employons le mot « hôtel » ou le mot « motel » pour désigner de tels endroits. Vous y passez la nuit pour dormir et le lendemain, vous poursuivez votre route. C'est une image de l'endroit où nous ensevelissons le corps de nos êtres chers croyants. Nous ne pleurons pas si un ami passe quelques jours dans un grand hôtel. Nous nous réjouissons plutôt avec lui. Le corps du croyant est déposé dans un motel jusqu'au jour de la résurrection. Un jour, le Seigneur revient et il ressuscitera ce corps. Revenons maintenant au verset 13 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Le monde sans Dieu n'a aucune espérance devant la mort. La mort leur fait donc très peur. Les croyants ne doivent pas être désespérés comme les gens du monde devant la mort. J'ai participé aux funérailles de plusieurs familles et je peux toujours discerner si la famille est chrétienne ou non. La façon de pleurer des gens m'indique s'ils ont de l'espérance ou non. Les chrétiens pleurent et il n'y a rien de mal à cela. L'apôtre Paul n'a pas dit que les chrétiens ne devaient pas pleurer lorsqu'ils perdent un être cher. Cependant, ils ne doivent pas le faire comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Le chrétien éprouve du chagrin à la mort d'un être cher, mais il a aussi de l'espérance. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18.
Merci beaucoup, Régent. Tu viens de dire quelque chose qui est tellement vrai, tellement évident. Tu as dit que le monde sans Dieu n'a aucune espérance devant la mort. C'est pourquoi la mort leur fait très peur. Mes amis, avant de connaître le Seigneur Jésus, la mort était un sujet auquel je ne voulais même pas penser. dès qu'on l'abordait, automatiquement, je le supprimais de ma tête. Toutefois, je m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, quand j'aborde ce sujet avec des gens à qui je présente l'Évangile, quand je leur demande s'ils sont arrivés à un point dans leur vie où, s'ils devaient mourir, ils seraient certains d'aller au ciel, plusieurs me répondent qu'ils ne pensent même pas à la mort. C'est peut-être mon opinion, mais je pense que les gens ne veulent pas penser à la mort, parce que ça leur fait peur, tout comme ça me faisait peur autrefois. Et c'est normal, l'inconnu nous insécurise. Encore plus, l'inconnu concernant où on va passer l'éternité. C'est pourquoi on présente le message de l'Évangile à l'émission À travers la Bible. On veut que les gens qui n'ont pas d'espérance devant la mort puissent obtenir cet espoir qui vient de Jésus seul. Paul nous dit dans le 3e chapitre de son Épître aux Romains au verset 23 que tous ont péché. Et au chapitre 6 de la même Épître au verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon ami, sais-tu où tu iras après la mort de ton corps? Paul nous dit au verset 24 du 3e chapitre de son Épître aux Romains qu'on est gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon ami, Dieu ne veut pas que tu aies peur de la mort. Il veut te donner une grosse police d'assurance vie. C'est l'assurance vie éternelle. Et cette police d'assurance ne te coûte rien, parce que Dieu l'a payée lui-même en entier, en donnant son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu aies la vie éternelle. Mon ami, Dieu est amour, comme il le cite dans la première épître de Jean au chapitre 4, verset 8. Mais Dieu est juste aussi. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 7, il est écrit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent et qu'il punit le péché. Mais dans son amour pour nous, dans son amour pour toi, mon ami, Jésus, qui n'a jamais péché, s'est laissé crucifier sur une croix afin de prendre notre condamnation à notre place, comme s'il était lui-même le plus grand des pécheurs. Jésus a payé la note en entier. Et maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est de l'accepter comme sauveur. Mon ami, demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il va pardonner tous tes péchés. Il va te donner le goût de changer de direction à l'égard du péché. Tu vas devenir une créature nouvelle qui se plaît à faire la volonté de Dieu en attendant le glorieux retour de Jésus. Imagine-toi attendre sa venue avec la certitude que tu t'en vas au ciel pour être avec lui éternellement. Ne perds pas cette opportunité aujourd'hui d'accepter Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Ouais.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
ouais,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu, du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Ouais. C'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller, car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance,
alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone
en composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, GEG-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.